Bonjour. Vous voyez le texte que nous allons étudier aujourd'hui. C'est un passage dans le prophète Agé. Pour ceux qui étaient là ces derniers mois, peut-être que vous vous rappelez que Charlie a déjà prêché sur ce prophète. Il a déjà, je pense, fait deux prédications sur le début de ce prophète. Et il m'a dit, les deux dernières prophéties d'Agé, elles sont un peu compliquées, elles me disent rien, alors vas-y, fais-les. Donc, je m'exécute. Car moi, elles me disent quelque chose. Donc, rassurez-vous. Normalement, il devrait en ressortir quelque chose. Pour ceux qui n'ont pas suivi les prédications de Charlie, ou qui ne se rappellent absolument plus du contexte du prophète Agé, voici un résumé des épisodes précédents. Nous sommes en 520 avant notre ère. Les Juifs sont rentrés d'exil à Babylone, de Babylone. Si vous vous rappelez bien, le pays en rose, c'est le pays d'Israël, le royaume du Nord. Ils se sont fait déporter en Assyrie, en 722, avant notre ère. Et eux, c'est un peuple qui a quasiment disparu, qui n'est jamais revenu d'Assyrie, en fait, en tout cas, pas beaucoup. Mais le royaume de Juda, lui, au sud, est parti en exil un peu plus tard, en 586, avant notre ère, et il est parti en exil à Babylone. Et sur cette carte, vous voyez jusqu'où ils sont allés. Alors, je pense que ça doit être, voilà, la flèche noire. Non, vous voyez là, ouais, Babylone, vous voyez. Et enfin 18 ans avant 520, donc en 538, ils sont rentrés d'exil à Babylone. Ils ont eu l'autorisation parce que Babylone s'est fait battre par les Perses. Et l'empereur perse a donné l'autorisation aux Juifs de rentrer sur leur terre. Donc vous voyez le voyage qu'ils ont fait, un voyage d'à peu près 4 mois. 4 mois pour rentrer chez eux. Donc ça, c'est 18 ans avant l'intervention du prophète Agé. Agé intervient 18 ans après le retour des exilés de Babylone. Et voilà, ça donne une toute petite province de Juda à l'intérieur de l'empire perse. Donc, il y a pas du tout, c'est pas du tout une indépendance politique. Juda devient une petite province de la Perse. Voici leur territoire. Agé intervient à ce moment-là, 18 ans après leur retour, et il y a un problème. Il y a un problème, ça fait 18 ans qu'ils sont revenus. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient revenus? Pourquoi est-ce que Dieu les a fait revenir de Babylone? C'est pour reconstruire le temple de Jérusalem. Et ça fait 18 ans qu'ils sont revenus, et le temple de Jérusalem est toujours en ruine. Le temple de Jérusalem est toujours en ruine, mais par contre, les maisons des Juifs qui sont rentrés, elles sont reconstruites. Et elles sont reconstruites de très belles manières. Ils ont vraiment embelli leur maison, ils ont pris du temps pour que leur maison soit très jolie. Par contre, la maison de Dieu, elle est en ruine. Et donc, Agé intervient pour dire aux Juifs, mais vous avez fait des efforts pour vos propres intérêts, mais par contre, les intérêts de Dieu, eux, vous les avez laissés de côté. Et c'est pas normal. Et du coup, Agé leur explique un peu le châtiment qu'ils ont eu. Ils ont eu des problèmes dans leur récolte, ils ont eu des problèmes divers et variés. Agé leur dit, c'est parce que vous ne vous êtes pas occupé de la maison de l'Éternel, vous n'êtes pas occupé du temple. Il a dit ça à tout le peuple, mais il a dit ça en particulier à deux hommes, au gouverneur de la province qui est juif, qui s'appelle Zorobabel, et au grand prêtre qui s'appelle Josué. Et par bonheur, Josué et Zorobabel ont très très bien réagi à la prédication d'Agé, ils se sont repentis. Ils ont dit oui, c'est vrai, on a fait n'importe quoi. Ils ont exhorté le peuple à reconstruire le temple. Et le temple a commencé à être reconstruit. Mais une fois que le temple a commencé à être reconstruit, le peuple a eu tendance à se démotiver. Parce que il y avait des vieux qui se rappelaient du temple ancien, le temple de Salomon, qui était grand, qui était grandiose, qui était merveilleux. et ils se sont dit, ouais, le temple qu'on a reconstruit, là, il est un peu minable. Alors Agé les encourage à persévérer, à se dire, allez-y, allez-y, construisez le temple, c'est pas grave s'il vous paraît moins bon que celui de Salomon. Agé les encourage. Et là, nous allons lire aujourd'hui deux prophéties, les deux dernières prophéties du livre d'Agé, où Agé va reprendre un petit peu ce qu'il a dit avant. C'est pour ça que normalement, même ceux qui n'ont pas vécu les deux premières prédications ne devraient pas être perdus, parce qu'il reprend un peu ce qu'il a dit avant. Donc je vous invite à lire au chapitre 2 du prophète Agé, au verset 10, jusqu'à la fin. La deuxième année du règne de Darius, donc l'empereur perse, le 24e jour du 9e mois, l'Éternel adressa la parole au prophète Agé en ces termes. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Demande donc aux prêtres leurs instructions. Dis-leur, si un homme porte dans le pan de son vêtement de la viande sainte, et que ce pan de vêtement entre en contact avec du pain, avec un mets cuit, avec du vin, de l'huile ou quelque autre aliment, l'aliment touché sera-t-il consacré ? Non, répondirent les prêtres. Alors, Agé redemanda aux prêtres. Si un homme s'est rendu rituellement impur par le contact d'un cadavre et touche l'un de ses aliments, ceux-ci seront-ils rendus impurs par là ? Oui, répondirent les prêtres. Ils seront impurs. Alors Agé reprit et dit. Ainsi en est-il de ce peuple. Voilà ce qu'est cette nation, à mes yeux, l'Éternel le déclare. Ainsi en est-il aussi de toutes leurs réalisations et de tout ce qu'ils m'offrent là. C'est impur. Et maintenant, considérez bien ce qui se produira à partir d'aujourd'hui. Avant d'avoir commencé à poser pierre sur pierre pour le temple de l'Éternel, vous alliez à un tas de blé supposé contenir deux quintaux, mais il n'y en avait qu'un. Vous vous rendiez au pressoir, vous espériez obtenir un hectolitre de vin, et vous ne trouviez que 40 litres. Je vous ai châtié en frappant le fruit de votre travail par diverses maladies, des céréales et par la grêle, mais vous n'êtes pas revenus à moi, l'Éternel le déclare. Considérez donc attentivement ce qui va arriver à partir d'aujourd'hui et par la suite, c'est-à-dire à partir du 24e jour du 9e mois, jour où l'on s'est mis à rebâtir le temple de l'Éternel. Oui, faites bien attention à ce qui va se passer. Reste-t-il encore de la semence dans vos greniers ? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien produit. Mais à partir de ce jour-ci, je répandrai ma bénédiction sur vous. C'est la première prophétie. Deuxième prophétie, l'Éternel adressa la parole à Agé une seconde fois, le 24e jour du mois, en ces termes. « Dis à Zorobabel, gouverneur de Juda, j'ébranlerai le ciel, j'ébranlerai la terre. » Et je renverserai les trônes des royaumes. J'anéantirai la puissance des royaumes païens. Je ferai culbuter les chars de guerre et ceux qui les conduisent. Les chevaux tomberont, leurs cavaliers s'entretueront. En ce jour-là, l'Éternel, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, je te prendrai, Zorobabel. « Toi, fils de Shealtiel, mon serviteur, oui, l'Éternel le déclare, et je ferai de toi comme le sceau qu'on porte au doigt, car moi, je t'ai choisi. » Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Et c'est la fin de la prophétie. Normalement, vous êtes comme Charlie, vous vous dites « mais c'est très très obscur comme passage ». Et normalement, nous allons le défricher. Nous allons commencer avec la première prophétie. Lors de la première prophétie, le prophète Agé se dirige vers les prêtres, vers ceux qui sont censés expliquer et appliquer la loi de Moïse. Et donc Agé va commencer sa démonstration en utilisant les prescriptions du Lévitique. Et je ne sais pas si vous savez, mais un des thèmes qui revient très souvent dans le Lévitique, c'est le thème de la pureté et de l'impureté. On ne peut pas approcher Dieu de n'importe quelle manière. Pour approcher Dieu, il faut être pur. Ou il faut se purifier. Et Agé fait une petite démonstration, utilise un petit exemple que les prêtres connaîtront, c'est-à-dire, est-ce que quelque chose de pur, de saint, peut assainir ce qui l'entoure? Agé dit au prêtre, imaginons, on prend de la viande consacrée, de la viande sainte, de la viande pure, et on la fait entrer en contact avec quelque chose d'impur. Est-ce que cette viande pure va transmettre sa pureté? D'après le Lévitique. Les prêtres répondent, mais non, d'après le Lévitique, c'est l'impureté qui se transmet, c'est pas la pureté. La pureté, on ne rend pas pure. C'est plutôt l'impureté qui va rendre impure la viande sainte. Et ils ont bien répondu. Pourquoi est-ce que Agé prend cet exemple, fait cette démonstration? Pour dire que les sacrifices qu'offraient les Juifs revenus de Babylone ne pouvaient pas rendre purs leurs actes, les actes de leur vie ordinaire. Ça ne pouvait pas amener la bénédiction sur leur travail terrestre. Ça faisait 18 ans que les Juifs qui étaient revenus faisaient des sacrifices. Et ils croyaient que, bah voilà, ils étaient en règle, quoi. Agé leur dit non. Pourquoi? À cause de leur indifférence envers Dieu. Comment est-ce que ça se voyait, leur indifférence envers Dieu? Mais parce que ça faisait 18 ans qu'ils n'avaient pas reconstruit le temple. C'était ça leur faute. C'est ça qui montrait leur indifférence envers Dieu. Deuxième démonstration de la part d'Agé. Quelque chose d'impur corrompt tout ce qui est en contact avec lui. Donc vous voyez, Agé fait la démonstration inverse de celle qu'il vient de faire, et il prend quelque chose d'impur qui entre en contact avec quelque chose de pur, et il demande, est-ce que les choses qui vont être en contact avec cette chose impure vont devenir impures? Les prêtres répondent oui. Pourquoi est-ce qu'il leur dit ça? C'était au cas où ils n'auraient pas compris le premier exemple. Il leur dit, le péché et la mort spirituelle dans laquelle les Israélites, les Juifs, étaient plongés, avaient pour effet de souiller même leurs actes de culte et leurs sacrifices. Du coup, ils éloignaient la bénédiction divine de leur vie terrestre. En gros, Agé leur dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour essayer de vous racheter, tant que vous n'avez pas reconstruit le temple, c'est foutu. Ça ne sert strictement à rien. Parce que ne pas reconstruire le temple, c'est dire que vous vous fichez totalement de Dieu. Il parle d'impureté, et après, il parle de châtiment et de bénédiction. Il a fait une démonstration en prenant pour exemple un acte tiré du Lévitique. Ensuite, il va parler d'un autre livre de la loi, le Deutéronome. Il faut que je vous explique quelque chose par rapport au Deutéronome. Vous avez dans le Deutéronome trois, c'est comme un peu comme un triangle, où aux trois sommets des triangles, il y a trois choses qui vont tout le temps ensemble dans le Deutéronome. Il y a Dieu, il y a son peuple, Israël, et il y a le pays promis. Et il faut que tout ça fonctionne ensemble. Il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Il faut aimer son prochain comme soi-même. Et si on fait ça, le pays va produire des fruits. Le pays promis, qui appartient à Dieu, va être béni. Par contre, si on n'aime pas Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, si on n'aime pas son prochain comme soi-même, le pays sera maudit. C'est ce que dit le Deutéronome. Et Agé prend cela en exemple quand il leur dit, avant de reconstruire le temple, avant d'obéir à la première prophétie d'Agé, eh bien, vos greniers étaient vides. Vos récoltes ne donnaient rien. Il y avait de la maladie. C'était Dieu qui avait fait ça. C'est Dieu qui a fait ça pour vous montrer. Pour vous montrer qu'en fait, vos actes de culte, qui avaient l'air bien de calmer vos angoisses existentielles, ben, c'était pas suffisant. Il fallait plus. Mais il dit, maintenant que vous avez commencé à reconstruire le temple, je vais vous bénir. Je vais vous bénir. Maintenant, c'est bon. Mais avant de leur dire ça, il leur dit, pendant 18 ans, vous n'avez pas compris les signes que je vous ai envoyés. Le signe de la terre maudite. Pourtant, ils n'avaient plus rien. Mais dans la démonstration de ce prophète, du prophète, il leur dit, maintenant vous allez voir. Maintenant, vous allez voir, je vais bénir cette terre. Ça, c'est la première prophétie. J'espère qu'elle est plus claire pour vous. La deuxième prophétie, elle a pour objet le gouverneur Zorobabel. Le livre se finit avec un message pour Zorobabel qui est un descendant du roi David. C'est pas n'importe qui, hein. L'empereur perse a pris pour être gouverneur quelqu'un qui faisait partie de la noblesse de ceux qui avaient été déportés 70 ans auparavant. Et donc Zorobabel est un descendant du roi David, pas forcément en ligne directe, mais en tout cas un descendant quand même. Comme son aïeul, comme David, Zorobabel a été fidèle à Dieu. Comme David, Zorobabel a obéi à Dieu et il a encouragé le peuple à faire de même. Quand il a entendu la prophétie d'Agé, il a encouragé le peuple à obéir et à reconstruire le temple. Et à ce moment de ce message, il faut quand même se rappeler que rebâtir le temple de l'Éternel n'est pas un simple service que Zorobabel rend à sa communauté. Le temple avait une grande signification dans l'Ancienne Alliance. C'était l'ambassade de Dieu sur terre. C'était le point de rencontre entre le ciel et la terre. C'était à cet endroit-là qu'était symbolisée la présence de Dieu au milieu de son peuple. Donc c'était quelque chose de très 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 important de rebâtir le temple. C'est un acte fondamental, puisque à partir de la reconstruction du temple, l'histoire du peuple de l'Alliance recommence enfin. Les travaux entrepris par Zorobabel ont tout simplement une portée éternelle. Et c'est pour ça qu'Agé bénit Zorobabel au nom de l'Éternel. Et il ne fait pas que le bénir, il lui promet des choses absolument grandioses. Et ce livre, justement, finit sur une vision radieuse de l'avenir. Petit 1, Agé dit à Zorobabel que les royaumes païens qui ont fait tellement de mal à Israël pendant toute son histoire, ces royaumes vont enfin être totalement balayés. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand on a été déporté, quand on a été vraiment oppressé par toutes les nations autour, Israël, c'était un petit royaume. À chaque fois, les grands empires lorgnaient et puis faisaient des incursions et puis repartaient. On leur a fait beaucoup de mal. Et là, Agé dit, ça va bientôt être terminé. L'Éternel va balayer tous ces grands royaumes. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais en plus, ce que l'Éternel dit à Zorobabel, c'est, je vais pulvériser la puissance militaire de tous ces royaumes grâce à toi. Il lui dit, c'est grâce à toi, Zorobabel, que je vais le faire. Lui, le petit gouverneur d'une petite province de la Perse, Il dit, je vais faire de toi un grand homme, tu vas pulvériser tous les autres royaumes. La deuxième promesse qu'il fait à Zorobabel, c'est que Zorobabel va être comme le sceau de l'Éternel. Qu'est-ce qu'un sceau ? C'est une bague qu'on avait au doigt qui authentifiait la provenance d'une lettre. On mettait ça sur de la cire, sur un cachet, pour authentifier que c'était bien le roi qui avait écrit cette lettre. Dire que Zorobabel, c'est le sceau de l'Éternel, ça veut dire « tu es mon représentant spécial sur la terre ». Tu es mon ambassadeur. Tu es une personne consacrée pour faire les choses en mon nom. En un mot, ça pourrait se résumer en un mot que vous connaissez, un Messie. Quelqu'un qui est spécialement consacré, qui est l'envoyé de l'Éternel. Agé dit à Zorobabel, tu es mon Messie. Alors il faut se demander, est-ce que Agé parle de Zorobabel ? Parce que dans l'histoire, on sait que les Juifs n'ont absolument pulvérisé aucun royaume à côté. On sait que Zorobabel n'a pas fait de plus grande chose que de reconstruire ce temple. Alors, est-ce de Zorobabel dont parle Agé ? Bien sûr que non. Les paroles de cette promesse ne s'appliquent pas vraiment à Zorobabel, mais à un de ses descendants, qui sera le digne représentant de Dieu, qui sera Dieu. Jésus va porter à son apothéose l'œuvre commencée par Zorobabel, son aïeul. Le véritable temple, ça va être lui, ça va être Jésus. Le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes, ça va être Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme. Par son sacrifice, par sa résurrection, Jésus va mettre un point final à la révélation de Dieu. Puisque tout ce qui peut créer une parfaite communion entre Dieu et les hommes sera pleinement accompli en lui. Jésus va aussi mettre à mal le règne des puissants de ce monde, grâce à son message qui va envahir la terre entière et qui va exercer une influence considérable, une influence capitale sur 2000 ans d'histoire occidentale. Imaginez que 3 siècles après Jésus, l'empereur romain va être, entre guillemets, obligé de se convertir au christianisme, tellement le christianisme s'est répandu. Et il va utiliser le christianisme pour asseoir son pouvoir. Imaginez, pendant des siècles et des siècles, des rois ont prêté serment pour être les fidèles représentants de Jésus. Alors, je mets un bémol, ils n'y sont pas arrivés. Et ils se sont plutôt servis de Jésus pour asseoir leur pouvoir, mais n'empêche que Jésus a marqué son influence sur les royaumes, la plupart des royaumes, sur la terre, bien longtemps après sa résurrection. Cette prophétie d'Agé s'est réellement réalisée, et aujourd'hui encore, le christianisme a une influence considérable sur des milliards de personnes. Et peut exercer même, parfois, un contre-pouvoir par rapport à certaines politiques qui ont lieu. L'influence de Jésus est encore énorme. Est encore énorme. L'obéissance à Dieu peut avoir des conséquences surprenantes. Zorobabel, 500 ans avant Jésus, construit un petit temple qui a l'air un tout petit peu minable, mais quelques années avant la naissance de Jésus, ce petit temple va être rénové par un certain Hérode. Et dans ce petit temple construit par Zorobabel va entrer Jésus, va entrer Dieu lui-même. Ça, 500 ans avant, Zorobabel s'en serait pas douté. Mais la petite obéissance de Zorobabel, 500 ans avant notre ère, a donné la possibilité à Jésus de rentrer dans ce temple et d'enseigner et de faire des disciples. Et ce temple a été détruit en 70 de notre ère par les Romains, en signe de châtiment pour ce peuple qui ne mettait pas sa foi en Jésus, et aussi parce que ce temple était devenu inutile, puisque dorénavant, le temple, c'est nous. Le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, c'est chaque croyant qui a mis sa foi en Jésus. Le temple, c'est nous, chrétiens rassemblés, qui formons des pierres vivantes, qui formons un nouveau temple spirituel. Ce temple était devenu caduc, il a été détruit en 70 de notre ère. Alors, quelles applications pour nous aujourd'hui ce texte a-t-il ? La première application, c'est ce que j'appelle la mauvaise logique de la balance. C'est quelque chose qui est encore à la mode aujourd'hui, c'est croire que nos bons actes, nos bonnes actions compensent nos mauvaises. La plupart des gens croient ça. Ils disent « oui, d'accord, je suis pas parfait ». Mais voilà, je fais quand même des choses pour me rattraper. Donc, en gros, j'ai la moyenne. Penser cela, c'est tout d'abord faux, parce que l'exemple d'Agé, par rapport à la pureté et l'impureté, montre que l'impureté transmet l'impureté à ce qui est pur. Mais c'est aussi à l'opposé de l'état d'esprit que devrait avoir un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a mis sa foi en Jésus, c'est quelqu'un qui est né de Dieu, quelqu'un qui est converti, et donc quelqu'un qui ne vit que pour accomplir le plan de Dieu, qui veut faire grandir le royaume de Dieu. Alors, se dire, bon, je peux quand même encore commettre quelques actes répréhensibles, parce que bon, je fais quand même des trucs vachement bien, c'est faire un peu comme ces juifs qui croyaient que continuer de faire des sacrifices, alors qu'on ne reconstruisait pas le temple, ça suffisait. Quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui est réellement converti, veut adorer Dieu en esprit et en vérité, totalement. Pas se garder un petit jardin secret en se disant « ça appartient pas à Dieu et c'est pas grave ». Alors ce que nous dit Agé aujourd'hui, ce que nous demande Agé, c'est « voulons-nous vraiment adorer Dieu ?» Ou est-ce que nous commettons, est-ce que nous faisons des petits actes d'adoration, comme venir ici ce matin, pour nous donner bonne conscience et pour nous dire « bon allez hop, c'est bon quoi, j'ai fait ma part quoi ». Ou est-ce que nous voulons réellement adorer Dieu, c'est-à-dire tout lui donner, c'est-à-dire lui vraiment vouloir lui rendre totalement gloire dans tout notre être et le laisser donc agir en nous par son esprit. Voulez-vous vraiment adorer Dieu ? Jésus a dit quelque chose par rapport aux inquiétudes que ses contemporains pouvaient avoir pour les choses matérielles. Les contemporains de Jésus se disaient, oui, d'accord, faut adorer Dieu, mais il faut quand même aussi prendre soin de soi, quoi, hein, prendre soin d'avoir de quoi manger, de quoi se vêtir. Il y a l'adoration, il y a le côté un peu mystique, le côté un peu voilà, mais il y a aussi la pratique, quoi. Hein, voilà, il faut travailler, il faut prendre soin de soi. Et Jésus leur a dit, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera donné en plus. Agé dit à ses contemporains, mais vous n'avez même pas vu qu'en fait, les choses pour vous, les choses, vos récoltes et tout ça, vous n'avez pas vu qu'en fait, vous n'aviez plus rien à la fin. Vous avez de jolies maisons, mais en fait, vos récoltes étaient pourries. Donc en croyant vouloir garder les choses égoïstement pour vous, vous n'avez pas vu qu'en fait ça ne marchait pas ? Occupez-vous d'abord du royaume de Dieu, et après Dieu va vous bénir. Agé ne dit pas autre chose que ce qu'a dit Jésus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, pas pour avoir d'autres choses, mais parce que toutes les choses seront données en plus. Pas parce que vous aurez fait votre part d'un accord commercial, comme si Dieu vous disait, bah voilà, je vais te bénir, mais par contre, il faut faire des choses pour moi. Non, non, pas pour ça. Mais parce que Dieu vous a sauvé pour que vous lui rendiez gloire. Tout comme Dieu a fait revenir les exilés pour qu'ils reconstruisent le temple. Deuxième application. Il faut avoir un bon discernement. Les contemporains d'Agé n'avaient pas un bon discernement, ils n'avaient pas compris que les mauvaises récoltes et les tuiles qui leur étaient arrivées étaient liées à leur désobéissance. Ils n'avaient pas compris. Et nous, quand nous connaissons l'adversité, quand globalement les événements paraissent contraires, comment réagissons-nous ? Alors, selon notre caractère, il y a plusieurs manières de réagir. Il y en a qui réagissent avec la colère, d'autres qui réagissent avec le découragement, d'autres qui vont essayer de combattre. Voilà. Ça dépend de notre caractère. Mais ce que Dieu nous appelle à faire avec ce passage d'Agé, c'est d'abord de nous placer devant Dieu et de lui demander, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Qu'est-ce que tu veux me dire ? Il ne faut pas réagir comme tant de gens qui disent « Je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive tout ça. » Parce que ces personnes qui disent ça ne connaissent pas Jésus. Le Dieu Père de notre Seigneur Jésus ne fonctionne pas comme ça. Quand il nous arrive quelque chose de mauvais, ce qu'il faut nous demander, c'est quel est le message que le Père veut nous faire passer. Parce que le but du Père, c'est pas d'être une sorte de Père fouettard qui prend du plaisir à nous fouetter. Le but du Père, c'est de nous faire progresser. Nous sommes ses enfants. Nous sommes des enfants qui avons besoin de grandir. Et parfois, Dieu a besoin de mettre devant nous des épreuves qui nous permettent de réfléchir, de nous poser et de le laisser agir par son esprit. Car le but de Dieu, c'est que nous grandissions pour lui rendre de plus en plus gloire. Heureusement que Dieu continue de nous éduquer par le moyen des circonstances. C'est le privilège de ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus. Ils acceptent les circonstances parce qu'ils savent que l'essentiel dans la vie, ce n'est pas leur petit confort, mais c'est la gloire du Dieu de l'univers. Et c'est ce qui va faire dire à l'apôtre Paul, que ce soit par ma vie ou par ma mort, l'essentiel, c'est que Dieu soit glorifié. Il faut avoir une certaine dose de foi pour dire cela. Que ce soit par ma vie ou par ma mort, le principal, c'est que Dieu soit glorifié. Êtes-vous prêt à dire cela ? Certains vont dire oui, d'autres baissent la tête. Et c'est vrai que c'est dur de dire cela. Mais c'est comprendre qui est Dieu. Dieu ne nous tente pas, ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Troisième application, c'est ce que je disais tout à l'heure, nos actes d'obéissance ont souvent des répercussions que nous n'imaginons pas. Ces conséquences peuvent être immédiates ou prendre un peu de temps. Mais en tout cas, elles peuvent être éternelles. Pour Zorobabel, les conséquences ont été énormes. Il a permis au culte de recommencer pendant 5 siècles en attendant que Jésus arrive. Avez-vous conscience d'être des faiseurs d'histoire ? Dieu peut vous utiliser pour des choses vraiment essentielles. Et parfois, on peut faire des choses par obéissance pour Dieu et se dire pardon, ça me saoule. Ça me fait pas plaisir, j'ai pas tellement envie de le faire. Mais bon, allez, voilà, il faut le faire, alors je le fais, quoi, voilà. Un peu comme, je sais pas, des fois, pour aller au culte, on n'a pas envie de se lever. Et on se dit, bon, ah, quand même, c'est le culte, alors je vais me lever. Peut-être qu'on s'imagine pas que parfois, Dieu peut se servir de petits actes d'obéissance comme ça, pour faire des choses extraordinaires. Extraordinaires. Dieu se sert de petits outils comme nous, de petits outils imparfaits, pour se rendre gloire. Il s'est servi d'un type qui est passé à Gobert un jour, qui s'appelait Henri Pitt, puis ça a créé un énorme réveil. Un petit mec comme ça, qui vient de Suisse. Un Suisse, vous vous rendez compte? Il aurait pu faire pire, se servir d'un Belge. Mais il s'est servi d'un Suisse. Dernière application. Aujourd'hui, nous avons changé d'air. Et je l'ai dit, et je terminerai par là. Nous avons changé d'air. Maintenant, le temple, c'est nous. Et je pense qu'il faut finir par là. On a de la chance d'être au XXIe siècle. À l'époque du prophète Agé, eh ben vraiment, ils n'avaient pas toute la révélation. Ils comprenaient pas trop toutes les choses. Et du coup, vous voyez, ils étaient encore dans des erreurs en disant, voilà, on va faire des petits sacrifices et puis ça va suffire. Nous, maintenant, on a toute la révélation de Dieu. On a le Nouveau Testament. On sait qui est Jésus. Du coup, on est bien mieux renseigné sur qui est Dieu, sur ce qu'il y a à faire, sur ce qu'il faut faire pour l'adorer. On a vraiment de la chance d'être né aujourd'hui et maintenant, en plus, dans un monde en paix, peut-être un monde un peu trop confortable, mais en tout cas, nous avons la chance de le connaître. Alors, ne faisons pas comme si nous étions en 520 avant notre ère. Vivons comme des personnes qui connaissons vraiment Jésus. Je vous invite à prier. Merci Père parce que tu es un Dieu très surprenant. Tu n'es pas un Dieu issu de l'imagination des hommes. Un Dieu créé pour nous faire plaisir, créé pour que nous nous fassions plaisir. Mais tu es le Seigneur de l'univers qui nous a créés pour te rendre gloire. Seigneur, aide-nous à être attentifs à ce que tu veux nous dire. Quelles que soient les circonstances que chacun nous traversons, aide-nous, Seigneur, à rester attachés à toi, à grandir en toi, à ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus, qui n'a pensé qu'à te rendre gloire, qu'à accomplir ton plan parfait. Seigneur, nous voulons te demander pardon, parce que notre orgueil nous pousse souvent à te résister. Nous savons que nous avons du mal à être des instruments malléables entre tes mains. Nous te demandons pardon. Aide-nous par ton esprit à nous soumettre à toi. Et nous te remercions pour la patience, pour la bonté que tu as à notre égard. Fais-nous grandir. Nous ne voulons pas rester des petits bébés qui continuent à manger du lait en poudre. Mais nous voulons, Seigneur, devenir des adultes spirituels. Nous voulons passer à des mets plus raffinés, à de la viande, à quelque chose de solide. Alors Seigneur, aide-nous à grandir comme le Père parfait que tu es. C'est au nom de Jésus que nous te demandons tout cela. Amen.